Alors un logiciel libre se définit par quatre libertés. La première qui est la liberté d'utiliser le logiciel pour l'usage que vous voulez tant que ça respecte les termes de la loi. La deuxième liberté qui est la liberté d'étudier le fonctionnement du logiciel et comprendre comment il marche. La troisième liberté qui est celle de redistribuer le logiciel à qui vous voulez de manière onéreuse ou gratuitement. Et la quatrième liberté qui est celle de pouvoir modifier librement le logiciel et l'adapter à vos usages.
C'est né comment en fait ce mouvement des, on peut vraiment parler d'un mouvement, hein, des logiciels libres, c'est en réaction au prix des logiciels là, qui étaient historiquement mis assez haut en fait dans l'histoire de l'informatique.
Non, c'est absolument pas une histoire d'argent, c'est vraiment une histoire de liberté. Alors le début du mouvement des logiciels libres, on peut le dater en 85. À MIT par un chercheur américain qui s'appelle Richard Stallman. Faut savoir qu'au départ, l'informatique était libre, dire par nature. Les logiciels étaient livrés avec ce qu'on appelle leur code source, qui est leur recette de fabrication. Il s'est fait qu'un jour, Richard Stallman, ce chercheur, habitué à adapter, à trifouiller ses logiciels et à l'adapter pour faire ce qu'il voulait, on lui a dit non, cette fois-ci, non, j'ai un contrat qui m'interdit de te filer les sources, qui m'interdit de te donner de quoi pouvoir le modifier. Il a trouvé c'est anormal. Pour lui, c'est restreindre les libertés, le droit de l'utilisateur. Donc le mouvement s'est créé. Il a créé tout d'abord une licence. Une licence d'utilisation, en fait, c'est le contrat que vous signez lorsque vous utilisez un logiciel. Typiquement, Microsoft, on appelle ça le contrat final utilisateur. Au gros, en échange du droit d'utiliser le logiciel, vous devez souscrire à certaines obligations, comme celle de ne pas le copier, pas pouvoir aider votre voisin en lui filant le logiciel, pas pouvoir l'adapter à vos besoins. Après, le côté grand public, on va dire, a commencé à émerger tout doucement à la fin des années 90, quand on a commencé à avoir des logiciels libres adaptés au grand public. Linux naît en 92 et qui, à partir de ce moment-là, commence à émerger comme solution alternative crédible à Microsoft. Il y a eu l'apparition aussi, au milieu des années 2000, de Firefox, un navigateur qui est maintenant reconnu comme le meilleur, un des meilleurs peut-être, en tout cas surpassant la plupart des équivalents propriétaires. OpenOffice, qui est aussi devenu une solution crédible de remplacement à Microsoft Office.
Alors il y a plein d'autres logiciels libres qui existent dans tout un tas de domaines. VLC pour la vidéo par exemple, Audacity pour le montage sonore, Grisby pour la comptabilité, etc. etc. Alexandre nous parlait de Linux. C'est un système d'exploitation alternatif à Microsoft Windows pour les PC et macOS pour les Mac. Il faut savoir que moins d'1% des personnes qui ont un ordinateur se servent de Linux. On lui a demandé quel intérêt finalement à utiliser ce logiciel libre.
Une technique de Microsoft, c'est de laisser pirater aux gens pirater le logiciel. Au particulier, on sait très bien qu'on n'ira pas les chercher pour ensuite vous habituer à Microsoft et que vous ralliez s'il n'y a pas Windows installé ou pouvoir dire aux entreprises vous voyez, vos employés sont habitués à Windows, donc achetez du Windows. Et eux, on sait vérifier leur logiciel, donc eux, on peut leur faire payer.
Oui, c'était un peu le sens de la question que j'allais te poser. C'est pour une personne qui ne paye pas Windows, parce que la plupart des gens, quand même, n'ont pas acheté le logiciel.
Bien sûr que si, vous l'avez acheté. Vous l'avez acheté dans le prix de votre PC. On vous dit que c'est gratuit. Non, bien sûr que non. Vous croyez que Bill Gates est devenu riche en donnant ses logiciels? Bien sûr que non. C'est une des choses contre lesquelles on se bat. C'est la vente liée, qui est encore imposée pour la plupart des ordinateurs, qui est le fait qu'on vous oblige, si vous voulez acheter un matériel, à acheter un produit séparé, qui est le logiciel.
Alors, pour les gens qui, quand même, ont piraté Windows, est-ce qu'il y a un intérêt à utiliser Linux? C'est la question qu'on peut se poser. Tu as partiellement répondu en disant que finalement, la tactique de Windows, de Microsoft, c'était d'habituer les gens à ça. Bon, il y a eu aussi pas mal d'histoires aussi avec certains logiciels faits par Microsoft qui marchent directement avec Windows et d'autres pas, quoi. Par exemple, Explorer.
Oui, c'était une des raisons pour lesquelles ils sont inquiétés par la Commission européenne. D'ailleurs, c'est comme ça, c'est encore une illustration de la technique de marketing de Microsoft. Comment ils ont imposé Internet Explorer? Il faut savoir que jusqu'à la fin des années 90, c'était Netscape qui était majoritaire. Alors, comment a fait Microsoft pour renverser est passé de 5% à 95%, eh ben, ils ont intégré Internet Explorer à Windows de telle manière que vous ne pouvez pas vous en passer. Ce qui fait que les gens qui sont arrivés sur Internet ont été un petit peu forcés à utiliser Explorer. Donc ça a donné les 90% de part de marché et ça a été la grande période de stagnation d'Internet jusqu'à ce que... Quand Firefox est apparu, ça a redynamisé. D'ailleurs, c'est concomitant avec l'apparition des technologies Web 2.0. Mais alors, tu parlais des avantages à utiliser Linux alors qu'on a déjà Windows. On dit, j'ai déjà payé un logiciel cher, c'est que tu peux, je les ai un petit peu niqué. C'est une réflexion qui est assez fausse à mon sens. D'avoir que Linux est un système qui est déjà beaucoup plus stable, beaucoup plus fiable, beaucoup moins de plantage. C'est votre Linux, si vous ne faites pas le con avec, s'il marche maintenant, il n'y a pas de raison que, comme Windows, il finisse par s'épuiser à force de... à force d'installer, désinstaller des logiciels et que finalement ça finisse par ramer. Une raison de sécurité, c'est que Linux déjà est beaucoup moins sensible aux virus. Alors certains disent que c'est le fait que ce soit moins répandu, ce qui n'est pas totalement faux, mais aussi parce que la structure de Linux est plus robuste. La séparation entre compte administrateur et entre ce que peut faire l'utilisateur de base et ce que peut faire l'administrateur est bien cloisonnée, ce qui fait que vous ne pouvez pas faire de bêtises et qu'un virus, en fait, même s'il voulait s'installer sous Linux, ferait beaucoup moins de dégâts qu'il pourrait ne le faire sous Windows. Sous Linux, vous avez fait aussi l'intégralité de vos logiciels qui sont dans une base de données. Donc pour installer un logiciel, en fait, vous êtes sûr de ce que vous installez, vous êtes sûr de ne pas avoir spyware parce que ce sont des bases de données qui sont pas sécurisées mais qui sont connues de tous.
Un spyware peut-être
Alors un spyware, c'est les fameux logiciels espions, ceux qui s'installent dans l'ordinateur vont chercher les données dessus et vont les renvoyer à on ne sait qui.
On est toujours sur Radio PFM avec Alexandre de l'asso Chtinux. On évoque avec lui le sujet d'actualité qui concerne l'Internet en France, à savoir la loi Hadopi. On écoutera aussi un complément d'information avec un autre membre de Chtinux qui lui s'appelle Charles.
Tout d'abord, c'est vrai que Hadopi est une grave menace pour le logiciel libre et pour la liberté des utilisateurs. Parce qu'Hadopi vise à imposer à l'utilisateur de mettre un logiciel mouchard sur votre PC. Donc, c'est un logiciel qui va surveiller ce que vous faites sur l'ordinateur, mais que vous ne pouvez pas contrôler. Or, soit il est libre, dans ces cas-là, vous pouvez contrôler ce qu'il fait, mais on perd un peu le principe de vouloir contrôler ce que vous faites. Ou alors, il n'est pas libre. Et là, c'est très grave parce que c'est un logiciel qui fait des choses sur votre PC, qui vérifie ce que vous faites, mais que dont vous ne contrôlez pas ce qu'il fait, vous contrôlez pas les données qui sont données. Donc c'est quelque chose d'extrêmement grave. Et à elle seule justifie amplement le fait qu'il faut s'opposer à cette loi.
Quand on parle d'Hadopi, bon, on parle de téléchargement de toutes les données, que ce soit musique, vidéo, logiciel, etc. Mais aussi on parle de musique. Il y a déjà des systèmes qui existent de licence libre. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que c'est le principe de licence libre ?
C'est un principe assez similaire à celui de logiciel libre. À ceci près que vous avez différents types de licences libres. Les licences libres sont donc les types de licences qui sont les Creative Commons. Ce sont des licences qui sont modulables. En fait, vous la faites au choix. Vous pouvez autoriser ou non l'utilisation commerciale de votre morceau. Vous pouvez autoriser leur libre diffusion, mais à condition que vous n'y apportez aucune modification. Parce qu'on considère que là, on est dans l'art. Autant l'informatique, un logiciel, c'est quoi ? C'est un mécano, c'est de la mécanique. Donc c'est quelque chose qui a vocation à être modifié, adapté. C'est pas quelque chose, c'est pas aussi lié à son auteur que de l'art, où là on peut comprendre que ben je veux pas faire du pognon, que n'importe qui fasse du pognon avec mon œuvre et que vous la modifiez parce que c'est mon œuvre à moi, c'est un objet artistique qui est beaucoup plus lié à ce qu'a voulu en faire son auteur. Donc à partir de ça, il y a des sites donc qui proposent d'écouter et d'acheter de la musique libre. Je pense à Yamendo. Vous avez un site comme Dogmazic qui vous propose aussi de découvrir les différents auteurs de musique libre. Vous avez Oxyradio qui est une web radio qui fait aussi découvrir sur son antenne des musiques libres. Désolé de citer un concurrent.
Mais il n'y a pas de problème.
Donc vous avez tout un écosystème qui commence à se mettre en place autour de la musique libre et qui montre qu'il y a une voie alternative à côté répressif d'Adopi et au règne des majors.
Est-ce que ça marche, ces trucs de licenciement? Est-ce que les artistes arrivent à en vivre correctement ou... Bon, la plupart des artistes restent quand même dans le système des labels qui s'occupent de leur distribution, qui mettent leurs CD dans les bacs des magasins quand même.
Alors, au niveau de la musique libre, il y a deux démarches. Il y a des artistes qui vont venir sur des plateformes comme Jamendo ou Dogmazic. Donc Jamendo, c'est une plateforme commerciale de musique libre, donc qui en fait met de la publicité et permet de télécharger de la musique libre. Et sinon, il y a une deuxième plateforme qui s'appelle Dogmazic, qui est plutôt associative et qui là cherche pas à se faire des sous sur la musique en elle-même.
Donc ils redistribuent l'argent qui est fait aux artistes eux-mêmes, comment ça se passe?
Donc Jamendo reverse 50% des revenus publicitaires aux artistes qui en font la demande. Ouais. Et Jamendo prend 5 centimes, je crois, sur chaque don qui est fait, 5 centimes d'euros, et le reste part à l'artiste. Et sinon, Dogmazic, c'est une association, donc en fait, je crois qu'il y a juste l'amortissement du serveur et des infrastructures, et après, je pense pas qu'ils récupèrent des dons pour les donner aux artistes. Je pense que eux, c'est juste un diffuseur et sans plus. Mais on retrouve plus d'albums sur Dogmazic. Et donc sinon, après, il y a une deuxième démarche, c'est celle d'artistes déjà connus, qui ont leur propre infrastructure web, leur site, qui mettent à disposition leur album sous licence libre. Donc par exemple, il y avait Nine Inch Nails, cette année, et il y a d'autres groupes qui commencent à tout doucement à se mettre à la musique libre. Il y a un artiste...
Radiohead ne peut faire ça, c'est pas le même système.
Radiohead, c'est pas tout à fait la musique libre. C'est un peu dans l'esprit de la musique libre, c'est-à-dire que il y avait un prix libre à la musique. Ça reste une musique commerciale. Mais donc le prix était libre, il y a des personnes qui ont mis 0 euros qui ont téléchargé la musique, il y en a d'autres qui ont mis 10 euros, 30 euros. Ils ont fait le calcul à la fin de l'opération qu'ils avaient fait, ils ont gagné plus, alors qu'il y a seulement un tiers des personnes qui ont payé le CD, un tiers ou deux tiers, je ne sais plus, qui ont payé le CD. Ils ont fait plus d'argent que s'ils étaient passés par une major.
Autre question posée à l'assaut Ch'tinux, est-ce que les logiciels libres ne remettent pas en cause finalement le ou les modèles économiques actuels? Réponse d'Alexandre.
Ça change de modèle économique, est-ce qu'on passe d'un modèle où on vend un produit, ça reste industriel pour le logiciel dire propriétaire. Là, on vous vend surtout en général le service, on vous vend le service associé. Je vous vends le logiciel, je vous vends la formation, je vous vends l'adaptation à votre cas particulier, je vous vends la documentation. C'est ça le modèle économique du logiciel libre.
Donc tous les gens qui sont dans Ch'tinux ne sont pas forcément des révolutionnaires anti-capitalistes ou comment tu vois ça?
Politiquement, on a un petit peu tout. On a des gens qui sont au centre, on a des gens qui sont plutôt à droite, des gens plutôt à gauche. Vous voyez, même dans toutes les communautés de logiciels libres, vous avez une forte diversité politique. Bien sûr, vous avez des révolutionnaires, mais vous avez des gens qui font ça par... Vous avez des gens plutôt révolutionnaires, vous avez des marxistes, vous avez des libéraux, vous avez même des racistes. Le Front National est un des premiers, les deux premiers partis à s'être engagés en faveur du logiciel libre, c'est les Verts et le Front National. Bon, les Verts avec des arguments un peu plus pertinents que ceux du Front National, je vais quand même le préciser. Mais maintenant, on dirait que le logiciel libre est à peu près reconnu comme valeur par la plupart des partis, sauf celui au pouvoir, ce qui est dommage. Mais non, un libriste n'est absolument pas forcément, il peut l'être, hein. On n'empêche personne d'utiliser. Le logiciel libre, c'est la liberté, donc on n'empêche personne d'utiliser le logiciel libre, on n'empêche personne de faire partie de. Enfin, on n'a pas empêché quelqu'un de faire partie du logiciel libre parce que c'est quand même. Ça a à la fois des valeurs de communauté, de bien commun, mais aussi de liberté individuelle qui est très forte, c'est quand même ça à la base. Donc non, d'ailleurs, c'est pas marqué politiquement.
« Dernière question, HTinux, une question un petit peu plus large sur l'avenir d'Internet. Est-ce que, selon lui, les internautes vont s'emparer du contrôle de ce bien commun ?
On agit pour qu'ils prennent possession de ce bien commun, comme tu dis, qu'ils soient autonomes, indépendants et qu'ils ne soient pas passifs devant l'ordinateur, mais qu'ils soient actifs, qu'ils s'approprient l'outil et qu'ils ne se laissent pas, je dirais, manipuler gauche ou à droite. On espère donc que ce sera une vision de l'informatique libre où le savoir informatique pourra circuler de manière libre et qu'il ne soit pas encadré avec des lois comme Adopi. Une autre loi se prépare, la LOPSI, hein, qui nous fait également très peur, où c'est encore une loi où les libertés sur Internet vont prendre un sacré coup, où ce sera la surveillance généralisée du réseau. Il y a un article du Monde, vous pouvez le lire, qui explique assez bien tout ça.
C'est quoi les tenants et les aboutissants de cette loi ?
Bah, l'OPSI, c'est autoriser encore une fois les services de police à espionner le réseau sans en référer à une autorité judiciaire. Donc c'est encore une manière de bafouer la liberté d'expression et le secret de la correspondance dans ce pays. Donc nous, on se bat contre cette vision Internet, mais on se bat pour un Internet libre.
Tout à l'heure, avant de commencer l'interview, tu me parlais de deux, je sais pas si c'est des associations ou qui militent au niveau des députés, nos élus, quoi.
Alors, vous avez l'APRIL, qui est l'association de promotion des logiciels libres en France, donc qui compte un peu moins de 5000 adhérents. Je vous encourage également à rejoindre parce que ils ont besoin de personnes pour pouvoir avoir du poids politique, pour pouvoir aller devant les députés, aller voir les ministères et défendre les valeurs du logiciel libre, ou à la Commission de Bruxelles également, et la Quadrature du Net, qui elle se bat pour les libertés sur Internet, donc c'est eux qui ont été les fers de lance de la lutte contre Adopi, qui sont allés se battre à Bruxelles devant le Parlement, devant les députés européens pour soutenir l'amendement, le fameux amendement 138, celui qui dérange tellement ce gouvernement parce qu'il oblige toute coupure d'Internet à passer par un juge et non pas à être prononcée par une autorité qui serait désigné par des entreprises. Donc voilà, c'est la quadrature du net, la quadrature.net. Donc si vous voulez leur filer un coup de main, il y a toute une liste de tâches à faire. Par exemple, démonter la fameuse, vous savez, vous avez peut-être entendu parler de la fameuse pétition des 20 000 artistes. En fouillant un petit peu, on se rend compte déjà que les bonnes parties ne sont pas des artistes, ça peut être des salariés de la SACEM. Encore une grosse partie qui se plaignent du téléchargement, mais qui sont absolument introuvables sur Internet. Et tous ceux dont on en attend, même des gens, on se demande vraiment ce qu'ils sont, parce que ces fameux artistes, ils sont nulle part, dans aucun répertoire, ils sont connus de personne, aucun connaisseur de musique ne les connaît. Donc ça peut être une manière de les aider. L'April, vous pouvez les aider en adhérant, vous pouvez les aider par exemple également en allant voir vos députés, leur faisant signer le pacte du logiciel libre, c'est l'initiative candidat.fr, c'est le nom également du site, candidat avec un S, où on propose aux candidats aux élections européennes de signer un pacte dans lequel ils s'engagent s'ils sont élus à défendre les valeurs du logiciel libre. Pour le moment, on a deux têtes de liste socialistes, quelques têtes de liste chez le Modem et chez les Verts. Je vous encourage à aller voir vos candidats, à aller voir vos élus, à aller en parler et les argumenter en faveur des valeurs du logiciel libre, pour ceux qui connaissent évidemment, et à nous aider à porter ces valeurs.
Alexandre de l'asso HTinux, asso qui organise des rencontres, des conférences pour promouvoir le logiciel libre. Ils organisent aussi des échanges pour apprendre à s'en servir. À noter qu'ils fournissent aussi différentes associations, des structures ou par exemple des centres sociaux qui le demandent, des packs de logiciels libres. Vous retrouverez bien sûr leur contact sur le web www.htinux.org. Si vous voyez un pingouin avec un cornet de frites, c'est sans doute eux.